Culture et société.
Anaïs Gertin-Lacroix est avec nous pour parler, ben vous l'avez entendu, culture et société. Pas besoin de répéter, ça devient plate. Bonjour.
Bonjour, Benoît.
Bon. Quoi? Hey. Quoi?
Mais non, mais moi, on va pas se répéter. Là, c'est un peu le jour de la marmotte au niveau des arts et spectacles, l'ouverture des salles, mais c'est un jour de la marmotte le fun. OK, aujourd'hui, agréable, parce que selon les dires, à 14h aujourd'hui, lors de la conférence de presse, Benoît, on devrait annoncer la réouverture des salles de spectacle, ce qui est une très bonne chose en soi. Là, on parle des restaurants 31 janvier. Et si tout va bien, ce serait le 7 février qu'on devrait ouvrir à nouveau, en fait, les salles de spectacle, cinéma également. Là, toutes ces belles personnes-là qui ont eu, je dirais, un deux ans assez difficile. Donc là, la capacité serait à 50%, maximum de 500 personnes à l'intérieur ou 1000 personnes à l'extérieur. Donc là, évidemment, moi, je vais jaser avec des gens aujourd'hui, savoir si le fameux 50%, au niveau du cinéma, on se les fait dire souvent que ça valait pas la peine, que c'était mieux des cinémas, même qui ont décidé de rester fermés lorsque ce n'était pas sale compte, disant, honnêtement, c'est une joke, on perd de l'argent à ouvrir nos salles. Donc, j'ai hâte de voir, mais
excuse-moi, Anaïs, mais c'est pas tous les artistes qui faisaient sale comble. De 50%, tu sais, je pense aux Canadiens de Montréal, une chance que c'est même pas 50%, ils n'auraient pas, tu sais.
Non, t'as tout à fait raison, mais c'est pas les mêmes non plus au niveau monétaire. Le Centre Bell n'a pas les mêmes ressources, exemple, qu'un La Tulipe où on dit ouais, à 50%, payer les artistes. Si on essaie de mettre ça également sur le web, c'est des sous. Est-ce qu'on fait entrer des barmen pour 50%? C'est tout ça à savoir. Est-ce que c'est bien beau le dire, là, mais sur papier, oui, mais concrètement dans la vie, est-ce que c'est rentable? Est-ce que c'est viable pour les salles de spectacle? Là, on va voir les réactions, évidemment, mais quand même, on s'enligne vers quelque chose de positif. Non?
Est-ce qu'ils remplissent les verres de bière à 50% aussi? Pour le même prix?
Ça, ils faisaient même avant la pandémie. Là, on s'en rappelle. Là.
Ah oui, hey.
Une sauce, là, puis de l'eau.
Écoute.
Là, c'est sur un moyen temps. Là.
Oui, oui. C'est là où on a rebaptisé les gin tonic des tonic gin. Hein? Parce que il y a plus de tonic à gin. En même temps, si tu parles à des propriétaires de salles, Anaïs, je serais curieux de voir leur réaction quand ils apprennent qu'on compte ouvrir les lieux de culte avant. Comme si les lieux de culte, un, c'était pas un spectacle, puis deux, c'était pas moins propice aux contaminations qu'une salle de spectacle.
Ben, tout comme les restaurants qu'on compte ouvrir avant, puis les salles de spectacle, plusieurs ont vraiment travaillé très fort là, pour avoir les tables séparées, même des endroits au début où on pouvait pas enlever le masque, on pouvait pas consommer ni d'eau ni d'alcool, donc tu avais ton masque tout au long de la soirée, il y avait des lignes par terre qui t'indiquaient exactement par où passer, avec les mesures sanitaires qui étaient en place à 100%, donc encore là, tu sais pourquoi la restauration avant les salles de spectacle, ça va tout être ça que je vais jaser, justement.
Super.
J'ai hâte de voir si
Si
ce sera reçu avec un gros sourire ou pas.
Ouais. Puis il y a des propriétaires de restaurants. Oh, je devrais pas dire ça. Oh, je vais le dire pareil. Il y a des propriétaires de restaurants qui ont aussi des bars de danseuses, hein. J'imagine qu'ils mènent les deux dossiers en même temps, puis ils veulent avoir. En tout cas. Je te dirai qui après, OK? C'est correct.
Ça existe encore les bars de danseuses, Benoît?
Oui. Mais je me demandais si c'est encore ouvert. Il me semble que non.
Ben, je penserais pas. Je vais t'avouer que je sors tellement pas. Puis quand je vais sortir, c'est pas là la première place que je vais penser aller. Mais je vais m'informer, Benoît.
Oui, s'il demande le passeport vaccinal, en tout cas. Et ça, d'autres passeports et d'autres vaccins aussi pour se protéger. OK, tu veux nous parler de Wordle?
Ça, là, ça me met à bout sur un moyen temps. Wordle, on s'en est parlé, je pense, c'est la semaine dernière, toi et moi, ce fameux jeu. Passe-temps, qui est gratuit, qu'on peut retrouver sur notre téléphone cellulaire, une application où à tous les jours, il y a un nouveau mot de 5 lettres et on a 6 essais pour découvrir ce mot-là. On a décidé de ne pas monétiser le jeu, il n'y a pas de publicité, donc c'est vraiment juste pour aider les gens à se désennuyer, à passer le temps, exemple, si on attend l'autobus. Mais on sait qu'il y a des gens dans la vie. C'est là, c'est une mauvaise foi, là. Puis c'est là que ça vient me chercher, Benoît. Donc, le fameux Robert Rachel qui dit, ben, il a décidé, il est bon avec Internet et tout ça, donc lui, avec un algorithme, il a réussi à découvrir c'était quoi le mot du lendemain. Donc lui a décidé de mettre ça sur les médias sociaux, et là, il y a un robot, un troll, là, notamment sur Twitter, qui a été créé, qui lui divulgue le mot à l'avance. C'est-à-dire que là, maintenant, les gens, il y en a plusieurs qui, on voit toujours le mot la veille. Donc là, tu n'as plus de plaisir, tu comprends, c'est gâché parce que tu sais déjà le mot pour le lendemain. Là, je me dis, c'est-tu bien inutile, ça, dans la vie? Tu comprends, là, pour une fois, un jeu comme ça, bonne fois, c'est gratuit, amusez-vous. Ben non, là, faut qu'il y ait deux, trois chaudrons, là, qui se disent, ben nous, on va aller scraper ça, puis on va divulguer aux gens c'est quoi le mot de du lendemain. Ça vient me chercher. Trouvez-vous une fille, s'il vous plaît, puis laissez-nous avoir du plaisir, ça me fâche. Ouais. Honnêtement, là, c'est quoi? Ça sert à quoi de faire ça?
T'as bien fait. Essaie de trouver son adresse pour aller y casser à la gueule. T'as l'air d'être crinqué là-dessus. Mais c'est correct.
Ça vient me crinquer.
Ben, je sais. Je le sens.
Tu comprends?
Hugh Hefner.
Hugh Hefner, ça a commencé cette semaine. C'est Only Madison. Ça reste assez troublant, je dirais. Benoît, c'est un nouveau documentaire, en fait, Secrets of Playboy, qui met de l'avant le côté plus obscur, je dirais, plus noir du manoir Playboy. Et pourtant, ça commençait hier et déjà, il y a une semaine et demie de ça, Playboy a décidé de vraiment faire une lettre ouverte pour prendre ses distances par rapport à Hugh Hefner, disant « on croit les victimes » et « Playboy n'est plus ce que c'était lorsque c'est Hugh Hefner qui était là. Maintenant, c'est 80% de femmes. On veut mettre de l'avant vraiment quelque chose de positif en ce qui a trait au corps de la femme. » Et là, Olay Madison est sorti expliquant vraiment comment que ça se passait lorsque tu étais au manoir Playboy. Et souvent, on avait une image de ça a donc bien l'air extraordinaire. Dans les films, on a souvent vu des parties au manoir Playboy où tu dis, ben, j'ai envie de vivre là, dans le sens que tu sais, c'est des filles qui travaillent pas, la piscine, tout ce que tu veux. Puis là, finalement...
Elle travaillait, hein?
Elle travaillait, mais c'est pas... Oui, elle travaillait, là, mais non plus, elle travaillait pas nécessairement au service à la cliente. Ben oui, ça
oui. Mais c'était salissant,
quoi. Okay, je me tais, OK?
Ouais.
Je me tais. Donc, ce qu'elle a raconté, notamment sur Jeffner, c'est à quel point ça ressemblait à une sieste. Comprends? Donc, les filles avaient un couvre-feu. Elles devaient se coucher à 21h. Elles étaient payées 1 000 $ semaine parce que Hugh Hefner ne voulait pas que les filles travaillent ailleurs. Comme quoi, les filles n'avaient pas le droit de sortir de la maison, sauf pour aller voir leur famille. Là, sinon, tu devais rester au manoir Playboy. En ce qui a trait aux relations sexuelles, c'était le mercredi et le vendredi. On sortait en boîte et après ça, Hugh Hefner venait te voir. Il y avait évidemment de la drogue, il y avait de l'alcool dans tout ça. En ce qui a trait aussi aux chirurgies esthétiques, elle disait que Hugh Hefner trouvait le moyen toujours de te faire des commentaires pour que tu te sentes mal, exemple, d'avoir des moins gros seins que les autres. Et lui, il voulait vraiment que les filles, puis c'est vrai, elles étaient tous pareilles. Là. Donc, les cheveux blonds de la même manière, de la même longueur, si tu coupais les cheveux, tu faisais vraiment chicaner, avoir la grosse poitrine. Donc, on dresse vraiment un portrait de cet homme-là qui semblait toujours très généreux, très charismatique, très chaleureux, qui semblait vouloir prendre soin de ses filles. Et finalement, une fois que les portes étaient closes, pouvait pas sortir du manoir Playboy et ça prenait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage en soi parce que c'était vraiment une relation toxique pour réussir à s'en sortir. Donc, elle dresse un portrait très différent de ce qu'on a pu voir pendant plusieurs années du manoir Playboy où tout semblait rose.
Ouais. Non, c'est ça. Hein? C'était pas le sympathique personnage. Il y avait des bons côtés. Là, il a participé à la révolution sexuelle, l'émancipation des femmes, mais de toute évidence, à sa façon. Ouais, c'est vraiment... Mais c'est pas étonnant. Hein? Tu sais, tu peux pas patauger dans ce monde-là puis être pur comme Cendrillon.
J'aimerais dire oui, mais j'ai l'impression que non, malheureusement. Surtout à cette époque-là. Là, ouais. Ça a changé une révolution depuis, mais à l'époque, c'est ça. Là. C'était Hugh Hefner, puis les filles à côté, c'était un « Sois belle et tais-toi ». Puis certaines, ben c'est ça. Là, une fois que tu réussis à t'en sortir, ben c'était des thérapies et tout ça, parce que tu étais, excuse-moi, mais complètement sexuellement « fucky ».
Ouais, j'imagine. Et on a le temps. Parlons de Neil Young.
C'est ça, Neil Young, Benoît, qui a demandé dans une lettre ouverte à Spotify à sa maison de disques, en fait, de retirer toute sa musique de cette plateforme-là de musique en continu, puisque sur Spotify, il y a, entre autres, le Joe Rogan Experience, qui est un podcast, un balado, et dans ce balado-là, Joe Rogan vraiment a reçu, je te dirais, des personnes assez controversées, soit des médecins qui venaient mettre de l'avant à quel point le vaccin n'était pas important. Donc, il y a vraiment des propos anti-vax où on disait justement que la COVID n'existait pas. Et là, voyons son prénom, voilà, Neil Young est sorti disant « Vous ne pouvez pas avoir Neil Young et Joe Rogan sur la même plateforme de diffusion parce que Neil Young, lui, est pro-vaccin. » Puis il là, c'est parce que dans ce balado-là, il y a sans doute des gens qui vous ont écouté, ont décidé de ne pas se faire vacciner et sont morts. Donc, moi, je ne veux pas être associée à une plateforme qui met de l'avant des propos comme ça anti-vax. Donc, il a fait la demande. Pour l'instant, Spotify n'a pas réagi. Mais lui, il est babine sur les bottines, puis il a fait non, je suis désolé, là, mais moi, je ne veux pas être sur cette plateforme-là.
Mais c'est une pente glissante, hein, parce que si tu commences à te retirer partout parce que tu n'es pas d'accord avec quelqu'un d'autre qui partage la même plateforme que toi, t'as pas fini, là. Toute la gang
ben,
de craquer.
En même temps, ce serait peut-être la mort des fameux Spotify. C'est peut-être la meilleure des solutions. On va mettre plein d'artistes qui se détestent sur la même plateforme, qui ont des visions complètement différentes. Ouais. Tout le monde va vouloir retirer sa musique. Ça n'existera plus. Puis on revient aux vieilles bonnes cassettes. Moi, tu vois, j'embarque. Ben.
Ah oui, puis mais ça, faut ça demande qu'il y ait des principes. Là. C'est pas fait.
Oui, c'est ça. Ça, c'est la ouais, c'est ça demande qu'il y ait des principes.
Ouais, ça, c'est le gros défi. Anaïs Gartin-Lacroix, merci. À demain.
À demain.